Marie-France, Maxime Bernier n'a pas dit qu'il était un candidat ou un chef de parti anti-avortement, sauf que il a un peu laissé planer le doute hier.
Exactement.
En présentant 10 candidats, dont l'ex-syndicaliste Ken Pereira, mais c'est surtout qu'il a abordé un peu la question en disant que son parti n'avait pas de ligne de parti comme telle, mais que si un de ses députés, évidemment dans le cadre d'une élection, à la Chambre des communes, présentait un projet de loi privé, il ne serait pas contre, il ne serait pas obligé de rentrer dans le rang.
Voilà, exactement. Et si on veut vraiment aller au texte, il a dit « S'il y a un gouvernement du Parti populaire, il y a un risque, un beau risque, qu'il y ait un débat sur l'avortement. » Et donc, il a dit que si un de ses députés, un de ses candidats présente un projet de loi qui restreint l'avortement, à ce moment-là, je lirai le projet de loi et je voterai en conséquence. Donc, il n'a pas dit qu'il était pour, mais il a dit qu'il était pour en parler. Évidemment, c'est sur fond de recul social en Alabama. On en parle beaucoup aux États-Unis. On voyait il y a quelques minutes que deux États, le Nevada et le Vermont, deux États plus progressistes, vont présenter des lois pour consolider le droit à l'avortement dans leurs États. Mais bref, ça se parle beaucoup aux États-Unis et ça fait vraiment, ça pose des questions, évidemment, jusqu'à ici. Et c'est un petit peu sur ce fond-là que Maxime Bernier a dû jouer dans ces tales-là qui ne sont pas des tales innocentes. C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais des wedge politics, des questions qui divisent et qui sont faites pour aller gagner du vote auprès d'une certaine frange de l'électorat. Donc, Maxime Bernier a parlé de beaux risques. Qu'est-ce que ça veut dire un beau risque? Ça veut dire que les droits des femmes ne sont pas garantis au Canada. Ça veut dire, moi en tout cas, quand j'entends beau risque à propos de l'avortement, je comprends qu'on peut reculer, que des femmes pourraient aller jusqu'à mettre leur vie en danger si le beau risque était adopté. C'est de faire de la politique sur le corps, sur le droit des femmes, de mettre ça dans la balance pour des fins électoralistes. Je trouve ça vraiment cheap, parce que c'est vraiment à des fins électoralistes. Auprès d'un certain électorat, ça peut aller chercher des votes, mais c'est de la dynamite manier ces questions-là. C'est vraiment sur le dos des femmes, sur le dos de 50 % de la population. Tu te souviens que Harper était un conservateur économique. Il était pro-vie, mais pas au point de réouvrir, par contre. Il déléguait à ses députés le droit de présenter, le fait de présenter des projets de loi privés. Et Andrew Scheer, qui a succédé à Stephen Harper, a à peu près la même position, mais il faut savoir que dans la course qui a opposé Maxime Bernier et Andrew Scheer pour la direction du Parti conservateur, souviens-toi, ça a pris 13 tours et ça a été hyper serré.
C'est vrai.
Et là, dans la course, dans les prochaines élections, Maxime Bernier, avec son nouveau parti populaire du Canada, va challenger Andrew Scheer dans certaines circonscriptions et il doit représenter quelque chose. Et il le fait sur ses politiques qui divisent. Il vise un électorat donc très précis. Et c'est comme si, en se prononçant, en ouvrant la question de l'avortement, c'est comme s'il présentait à ses franges de l'électorat dans certaines régions de l'Ouest, entre autres, c'est comme si, pour ainsi dire, il leur présentait ses lettres de créance. Tout ça sur le dos des femmes, c'est vraiment puant. Mais je trouve que, par contre, le Parti populaire canadien a le droit d'exister. C'est un courant libertarien qu'il incarne, ce qui veut dire, en gros, moins d'État. C'est acceptable, ça se peut, ce n'est pas mon opinion, mais ça se peut, ce genre de parti-là. C'est des opinions tout à fait discutables, mais en faisant ça, il présente un côté étrange du libertarisme. Entre autres, 9 hommes, une femme, il dit qu'il ne fera pas de l'effort à outrance, Maxime Bernier, et il dit privilégier la compétence. Deux mots, Ken Pereira. Ken Pereira, un syndicaliste très courageux, un lanceur d'alerte, on l'a découvert à la commission Charbonneau, il a bravé la FTQ Construction, ses bandits, ses goons, ses mafieux. Sauf que c'est aussi Ken Pereira, un crinqué des théories du complot. Le 11 septembre, il n'est pas vraiment sûr que ça s'est passé, comme on dit.
Il a disjoncté après, après son passage devant la commission Charbonneau, notamment, et son rôle de sonneur d'alerte.
Oui. Et quiconque le suit sur Twitter, et beaucoup de nos auditeurs doivent le suivre, tu le vois passer ses opinions à la journée longue. C'est très, très, très paranoïaque. Il fait des attaques intempestives. C'est un grand... il vénère vraiment le Donald au sud de la frontière. Il croit qu'on est entouré de fake news. Il voit un lien entre l'autisme et les vaccins. Bref, il est vraiment dans la théorie du complot. Ouais. Mais visiblement, Maxime Bernier s'en fout. Il y a probablement, M. Pereira a probablement peu de chances de se faire élire contre le conservateur dans Portneuf, qui est vraiment plus fort, mais ça fera parler de Bernier et de son parti. Et je trouve, je te dis, je répète, je crois que le courant libertarien est tout à fait discutable, et ça se peut, un parti libertarien sur l'échiquier canadien, mais la manière avec la question de l'avortement et avec la candidature de Ken Pereira, la manière qu'a Maxime Bernier de se présenter, pas sûr qu'il marque des points.
Le journal de Montréal n'existe plus, a perdu sa cause devant QMI. Et toi, tu soutiens, Marie-France, que ce n'est pas une poursuite contre la liberté d'expression comme telle.
Exactement. C'est vraiment une poursuite et c'est vraiment toute la défense que Média QMI, donc une filiale de Québécois, a eue. C'est l'appropriation de la marque à des fins commerciales. Il faut dire que le titre, le logo était vraiment copié sur celui du journal de Montréal. La forme, vraiment l'apparence y était pour beaucoup. C'était vraiment une parodie du journal de Montréal. Le style sensationnaliste également. Mais c'était vraiment un journal de satire dans la lignée de The Onion ou du World Daily News Report. Et l'argument, c'était vraiment que les nouvelles sont confondantes. Et le témoignage, d'ailleurs, de la journaliste Anne-Marie Dussault a dû jouer quand elle est venue dire que le journal avait vraiment nui en sortant la nouvelle de sa liaison avec un ex-ministre libérale a nui à sa vie privée et a eu un impact sur elle. Ça a certainement dû jouer auprès du juge, de la juge plutôt. Et c'est ça, donc, on a vraiment joué, non pas sur la liberté d'expression, et c'est très habile parce que c'est de la satire, c'est de la parodie. Et si on avait joué sur le droit à la liberté d'expression, on n'aurait probablement pas gagné parce que ça existe, et c'est ça, c'est de la satire, c'est de la parodie. On a joué vraiment sur l'appropriation d'une marque. Les gens peuvent confondre, s'ils sont mal informés, c'est l'argument qu'on a invoqué. Le résultat est le même, c'est qu'on a cloué le bec à un petit journal satirique et on les condamne à payer ce qu'ils ont fait comme profit en 6 ans, c'est-à-dire à peu près 4 000 $ par an. La grosse filiale de Québécois qui oblige à payer le 23 500 $ au total six ans de parution. Mais c'est ça, le résultat est le même, c'est qu'on ferme la gueule à quelqu'un qui se moque de l'Empire. Trois choses qui ressortent de ça, selon moi. Le public est mal éduqué à l'information. Il mélange la vraie, la fausse, la parodie. Mais est-ce que le Journal de Montréal éduque son public en faisant ça, en disant qu'on confond les nouvelles? Les grands conglomérats de presse ont vraiment la peau courte. Ils sont très susceptibles. Les temps sont difficiles pour la presse en général, mais ils ont vraiment la mèche très courte en ce moment. Et les organes de satire, souviens-toi, il y avait le Navet sur les réseaux sociaux il y a quelques années, la Pravda. Là, maintenant, le Journal de Montréal n'existe plus. Mm-hmm. C'est vraiment une espèce en voie de disparition. Et c'est dommage parce que sur la question de la liberté d'expression, le Journal de Montréal avait ses chances, mais sur le terrain très néolibéral de l'appropriation de l'image, il a perdu.
Mais moi, je crois qu'ils ont été très maladroits, notamment dans le cas d'Anne-Marie Dussault.
Absolument.
Moi, je crois aussi, un journal satirique, regarde en France, Le Canard Enchaîné, et regarde dans le passé le succès qu'a obtenu le magazine Crow.
Tout à fait.
Dans les années 80, Crow avait souvent ce qu'on appelait un supplément qui était inséré à l'intérieur des pages, et je me rappelle très bien qu'ils avaient fait un faux journal de Montréal. Mm-hmm. Je ne sais pas quel titre ils lui avaient donné, là, mais ça ressemblait, le logo, les couleurs et tout ce que tu veux. C'était très drôle. Mais là, dans ce cas-ci, le fait qu'on ait personnalisé cette nouvelle-là autour d'Anne-Marie Dussault, qui est venue témoigner, de dire « Hey, c'est pas drôle pour moi, là. c'est pas drôle pour moi.
Ça a certainement pesé. Ouais. Ça a certainement pesé dans la balance.
Moi, je pense que ça a joué un rôle important que ce témoignage.
Parce que la liberté d'expression a le droit d'exister, tout à fait, et elle aurait dû exister dans ce cas-là. Et on perd une voix dans l'expression en général sur le débat public. Mais effectivement...
Et il faut, selon moi, ce genre de publication a sa justification, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qu'on ait un journal satirique qui se moque.
Oui, dans ce monde de fake news,
oui.
Eux en font sciemment.
Oui.
Ils sont allés trop loin, mais c'est pas, normalement, c'est pas sur cette affaire-là d'Anne-Marie Dussault. Ça a dû peser, mais c'est un manque de discernement de leur part. Ça, c'est très, très clair.
Là, je pense
et
oui.
le journaliste principal s'en est excusé. Mm-hmm. Yannick Muriel s'en est excusé. Il était très penaud et à raison. Effectivement, c'était vraiment pas de très bon goût. Mais par ailleurs, au nom de la liberté d'expression, un journal satirique qui se moque de choses politiques devrait exister. Et puis, il va nous rester les fake news et Ken Pereira pour s'amuser.
Il va être content de t'entendre. Merci beaucoup, Marie-France.
Et à demain.